Là, comme il reste 2 mercredis, je vais finir Hébreux en 2 fois. Aujourd'hui, on va parler de Hébreux chapitre 11 et mercredi prochain, Dieu voulant, on fera 12 et 13. La fin de l'épître aux Hébreux est beaucoup plus pratique. Les 9 premiers chapitres révèlent la supériorité du Seigneur Jésus-Christ, sa divinité et aussi l'importance et la puissance de son sacrifice pour effacer complètement nos péchés. Bien sûr, on n'a pas pu voir, il y a plein de versets qu'on a ratés, puisqu'on voit un verset à chaque fois. Mais dans le chapitre 11, j'aimerais faire différent, j'aimerais le prendre d'un bloc et qu'on puisse découvrir ce que Dieu veut nous apprendre sur la foi, puisque Hébreux 11, c'est le chapitre sur la foi. Si vous voulez savoir ce qu'est la foi, il faut étudier, méditer le chapitre 11. Si vous voulez savoir ce qu'est l'amour de Dieu, il faut étudier quel chapitre? 1 Corinthiens 13. Si vous voulez étudier la résurrection, c'est quel chapitre? 1 Corinthiens chapitre 15. Voilà, c'est bon d'avoir les grands chapitres comme ça de la Bible en mémoire pour savoir où chercher les réponses. Est-ce que vous connaissez Charles Blondin? Non? Charles Blondin. Charles Blondin, c'est un nom d'artiste. C'est pas comme ça qu'il s'appelait, mais c'est son nom d'artiste. C'est un Français du Pas-de-Calais qui a beaucoup impressionné les Américains et les Canadiens au XIXe siècle. Maintenant que je vous ai dit ça, vous voyez tout de suite qui c'est. Bien sûr que non. C'était un funambule, quelqu'un d'extraordinaire qui passait sa vie depuis son enfance jusqu'à sa mort à marcher sur des fils en hauteur. Partout où il allait, il avait toujours un fil avec lui qu'il attachait quelque part. Et il est connu parce qu'en juin 1859, il a tendu un fil de chanvre de 300 mètres de long d'une rive à l'autre des chutes du Niagara. Et il a fait pendant plusieurs jours des spectacles devant des milliers de personnes ébahies par sa dextérité. Il pouvait marcher sur ce fil, traverser en haut des chutes. S'il tombait, c'était la mort assurée. Il n'avait pas de câble comme ont certains funambules aujourd'hui pour se sauver. Il était comme ça. Et puis, il l'a fait à pied, mais il l'a fait ensuite sur un vélo. Il l'a fait avec un réchaud dans la main en faisant cuire une omelette tout en traversant les chutes du Niagara. Et plus il faisait de choses extraordinaires, plus la foule était émerveillée par les capacités de cet homme. C'était un vrai triomphe, vraiment. Il a été connu en 1859 pour ce triomphe. Et puis, un moment, le lendemain, il arrive sur son fil, sur sa corde, avec une brouette. Et il dit, est-ce que vous croyez que je peux traverser les chutes du Niagara avec une brouette? Et la foule, oui! Avec tout ce qu'il avait fait avant, une brouette, c'était presque facile. Et est-ce que vous êtes sûr que je peux le faire? Oui! Qui veut venir dans la brouette? Et là, silence total. Personne n'a osé monter dans la brouette. Et cette histoire vraie, hein, finalement, c'est son manager qui va accepter de monter sur son dos. Il va traverser les chutes du Niagara avec le manager sur le dos, mais personne ne mettra les pieds dans la brouette. C'est une image un peu de notre doute, de notre manque de foi. On peut dire, oh Seigneur, oui, je crois en toi, Seigneur. Tout ce que tu diras, je le ferai, j'irai où tu voudras. Et puis le jour où il faut vraiment mettre un pied devant l'autre, il n'y a plus personne. Si j'ai la foi en Dieu, en Jésus-Christ, ça doit se manifester. Et c'est vraiment le thème de Hébreux chapitre 11. La foi agit, la foi produit. Si vous regardez d'abord quelques versets avec moi, je vous invite vraiment à suivre dans votre Bible, puisqu'on va voir plusieurs versets de Hébreux 11. Le premier verset dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà une définition et je vais en reparler après. Mais peu de temps après, il montre ce que la foi produit. Et tout au long du chapitre, il va nous dire, la foi, ce n'est pas une idée, ce n'est pas une pensée, ce n'est pas une émotion, un sentiment, ce n'est pas un gaz qu'on reçoit ou ce n'est pas une chose qui nous tombe dessus un jour. La foi agit, la foi bouge. Par exemple, verset 4. Il est dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu. Donc par la foi, il a offert à Dieu un sacrifice. Verset 7, c'est par la foi que Noé a construit un bateau, une arche. Donc il a construit par la foi. Verset 8, c'est par la foi que Abraham est parti. C'est par la foi, verset 11, que Sarah a enfanté un fils alors qu'elle était stérile. Verset 17, c'est par la foi qu'Abraham a offert son fils Isaac. Donc il a offert son fils, il a agi. Verset 20, c'est par la foi que Isaac a béni Jacob et Ésaü, ses fils, en leur distribuant une bénédiction, pas simplement pour leur vie, mais pour plus tard. Verset 21, il a béni aussi les fils de Joseph, qui deviendront après les 12 tribus d'Israël. Verset 22, Joseph, par la foi, a donné des ordres au sujet de ses eaux, parce qu'il savait qu'il allait s'établir en Israël. Verset 23, c'est par la foi que Moïse a été caché par ses parents, parce qu'on tuait tous les enfants mâles en Égypte à cette époque-là. Et ses parents, par la foi, l'ont caché. Verset 24, c'est par la foi que Moïse a refusé d'aller avec la pensée égyptienne dans laquelle il vivait. Verset 27, c'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte. Verset 28, c'est par la foi qu'il a fait la Pâque, hein, tué l'agneau de Pâque. C'est par la foi, verset 29, qu'il a traversé la mer Rouge avec tout le peuple juif. Verset 30, c'est par la foi que Josué a fait tomber les murailles de Jéricho. Verset 31, c'est par la foi que Rahab, la prostituée qui vivait à Jéricho, a été sauvée, justement, d'une mort certaine lors de la guerre de Jéricho. C'est par la foi qu'ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ils sont partis, ils sont restés, ils ont agi. La foi est agissante. Et nous avons parfois cette fausse idée de la foi, que c'est une émotion spirituelle ou religieuse. Je ressens la foi. Mais de la même façon que on doit monter dans la brouette quand Dieu le dit, la foi doit agir. La foi, souvent, leur a coûté quelque chose. Si vous regardez un peu dans le chapitre « Les héros de la foi », Moïse, il a perdu son confort et sa gloire et à la cour d'Égypte. Il était élevé à la cour d'Égypte par la fille de Pharaon. Et il a refusé cette gloire humaine pour suivre la honte avec son peuple, le peuple hébreu. Et il a risqué sa vie maintes fois. Et il a quitté l'Égypte pour finir sa vie dans un désert, hein, puisqu'il est mort dans le désert du Sinaï. Franchement, on ne peut pas dire que ce soit une vie en apparence réussie. Comment t'as fini ta vie? Ben, je suis mort dans le désert. Voilà. Bon, ben, c'est pas ça qu'on attend de la vie. Mais pourtant, Moïse a vraiment réussi sa vie, on le sait, par la foi. Parce que dans ce désert, d'abord, il a vu des miracles. Il y avait la manne qui tombait tous les matins. Il y avait l'eau qui jaillissait d'un rocher qui suivait le peuple. Il y avait le tabernacle, le feu de Dieu qui suivait Israël. Et puis, il y avait cette promesse du pays promis. Tout cela, cette relation qu'il avait avec Dieu, les 10 commandements qu'il a apportés et qui sont encore utilisés, tout cela, c'est la réussite. Mais aux yeux des hommes, ils ont beaucoup perdu. Aux yeux des hommes, ils ont beaucoup perdu. Et on a toujours ce choix dans la vie. Est-ce que je veux tout de suite les choses ou est-ce que je suis prêt à les avoir par la foi? Le diable propose des raccourcis. Tu veux de l'argent? Triche, mens. Vol. Tu veux gagner plus d'argent? Alors ne déclare pas tout. Mets de l'argent caché en Suisse ou je ne sais pas où. Monte une affaire bidon. Et Satan nous propose toujours des raccourcis. Mais le chrétien, il fait confiance à Dieu. Seigneur, j'ai besoin d'argent pour vivre. Ce n'est pas mon but, l'argent, mais j'en ai besoin. Je te fais confiance. Je ne prends pas de raccourcis pour avoir l'argent. Où je ne cherche pas la gloire sur la terre, parce que la vie sur terre est tellement rapide, tellement éphémère. Et Abraham, par exemple, dans le chapitre 11, hein, a reçu en promesse une cité, mais il ne l'a jamais vue. Regardez verset 9. « C'est par la foi qu'Abraham vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes. » Donc Abraham était, à l'époque, on vivait beaucoup sous les tentes. Mais dans sa ville, je pense qu'il vivait dans une maison à Ur. On a retrouvé les restes de Ur en Chaldée, en Irak. C'était une immense ville, très riche, avec beaucoup d'instructions, de culture. C'était des gens très, très évolués. Et il a quitté tout ça pour aller, là encore, dans la terre de Canaan, vivre sous des tentes, sous une tente, et en ayant quoi? Ben, il a mis les pieds sur la terre promise. C'est vrai, il avait sa tente là, mais il n'a jamais vraiment possédé la terre promise. Abraham n'a jamais possédé Israël. C'est beaucoup plus tard que les Israélites, avec Josué, vont conquérir ce pays. Mais Abraham, lui, il ne l'a eu qu'en promesse. Et verset 10, il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et regardez verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Alors c'est choquant cette parole. Comment? Ils sont morts sans avoir obtenu les choses promises, mais alors c'est un échec. La foi est un échec. Moi je préfère avoir les choses tout de suite. Le diable va m'aider, il va me dire, tiens, moi je vais te montrer comment tu peux avoir les choses tout de suite. Et Dieu, il me dit, ah non, il faut attendre, c'est la foi, fais-moi confiance, en mon temps je le ferai. Et là, l'être humain n'aime pas ça. Pourtant, le modèle là, c'est ces hommes-là, hein. Ils ont attendu, ils ont fait confiance. Ils n'ont pas eu de leur vivant, mais ils l'ont eu après la mort aussi, hein. Ils avaient une espérance qui dépassait la mort. On ne met pas tout notre investissement dans cette vie. C'est pour ça qu'ils ont été capables de sacrifier, de perdre des choses dans cette vie pour avoir dans la vie éternelle quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ça qui est difficile pour nous parce que la vie après la mort, on ne la voit pas. On a juste une promesse. De l'autre côté du rideau, tu auras quelque chose d'extraordinaire. Oui, mais c'est de l'autre côté du rideau. Est-ce que je ne peux pas avoir maintenant? Et Dieu, des fois, donne des choses maintenant, mais des fois, il ne les donne pas. Il y a des missionnaires, ils ont travaillé dans des pays, ils ont évangélisé, et il n'y a même pas eu une seule église avec leur ministère. Ils sont morts, ils sont allés au ciel, et puis le missionnaire suivant est arrivé, il a commencé à ouvrir la bouche et les gens se sont convertis. Alors, est-ce qu'il était meilleur que le premier missionnaire? Non. C'est que le premier, il a fait un travail de labourage, si on peut dire. Et le suivant est arrivé, il a moissonné ce qui avait été labouré avant. Mais nous, on veut tout de suite et on veut voir. Et la foi, justement, c'est le contraire de la vue. C'est une façon de voir, mais différente. Leur foi leur a coûté cher, leur réputation, leur confort, leur vie, souvent. Hein. Il parle de tous ceux qui ont été persécutés. Là encore, aux yeux des hommes, mais attends, tu vas te faire persécuter, tu vas finir ta vie en prison pour le nom de Jésus. Mais c'est bête. Tu pourrais vivre tranquillement avec ta famille dans une belle maison, pas de soucis, et toi tu veux aller à tout prix en prison, c'est ça que tu veux. Mais non, je ne veux pas aller en prison. Ben, si tu continues à parler de Jésus, tu vas aller en prison, tu es dans un pays où c'est interdit. Et on se dit, mais c'est fou, pourquoi ces gens se laissent persécuter? Pourquoi ils continuent à témoigner? Pourquoi ils sont prêts à mourir? Pourquoi il y a eu des centaines, des milliers de missionnaires qui sont allés mourir dans des pays étrangers? Mourir de maladies, mourir des brigands, mourir de toutes sortes de maux. Pourquoi? Parce que pour eux, le nom de Jésus-Christ, la vie éternelle, la présence de Dieu était beaucoup plus réelle et plus importante que les choses passagères de ce monde. La Bible dit, hein, ce monde passe. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Les choses de ce monde, on les voit, on les touche, mais ça va partir. Vous pouvez avoir 30 milliards sur votre compte en banque. Quand vous allez mourir, ça va vous servir à quoi? Même déjà de votre vivant, vous n'avez pas assez de temps pour le dépenser assez vite. Et puis même si vous aviez une frénésie de dépenses, j'achète un avion. Allez, aujourd'hui, je vais acheter 3 avions, 5 Ferrari, 25 villas, parce que c'est mon lot pour aujourd'hui. Bon, mais au bout d'un moment, vous en avez marre. Ça ne remplit pas votre vie, ça ne vous rend pas heureux. Alors qu'il y a des chrétiens en prison qui étaient dans la joie. Dans les camps de travail en Russie, il y avait des chrétiens baptistes qui chantaient des cantiques. Il faisait moins 20 dehors et ils chantaient. Dans la Bible, dans le livre des Actes, hein, Paul et Barnabas sont en prison, Paul et Silas, pardon. Et là, ils chantent des cantiques alors qu'ils viennent d'être battus pour leur foi, enfermés dans un cachot, mais ils chantent. Pourquoi? Parce qu'ils ont la réalité des choses, les choses spirituelles. Et leur foi voit ça. Alors que nos yeux humains, notre convoitise humaine, elle ne voit que ce qu'elle a maintenant. Elle ne voit pas ce qu'elle aura. Quand je dis à quelqu'un, mais moi je suis content, j'ai la vie éternelle. Quelqu'un qui n'a pas la foi, il va pas. Et alors? Mais d'accord, mais moi j'ai une belle voiture, j'ai une belle maison, oui, mais moi ça c'est nul, ça disparaît. Moi j'ai la vie éternelle, tu te rends compte? Beaucoup de gens ne voient pas l'intérêt de ça parce qu'ils n'ont pas la foi. Et la foi, elle voit des choses invisibles. La foi leur a coûté, mais elle leur a aussi procuré beaucoup de choses. Abel, par exemple, a été agréable à Dieu par son sacrifice, par la foi. Il a été sauvé, on peut dire. Noé aussi a été sauvé. S'il n'avait pas eu la foi, il n'aurait pas construit l'arche et il n'aurait pas eu la vie sauve lors du déluge. Donc la foi procure des choses spirituelles. Et premièrement, le salut, bien sûr. La place au ciel. Abraham, hein, il a eu cette place dans la cité céleste qu'il attendait. Il savait qu'il allait au ciel, que sa place était réservée. Comme nous, aujourd'hui, on a cette promesse de Jésus-Christ qui dit, hein, je m'en vais, vous êtes avantageux que je m'en aille, et puis il dit, je vais vous préparer au ciel une place, et je reviendrai afin que là où je suis, vous soyez aussi. Quelle promesse extraordinaire de pouvoir dire, ma place est réservée. Je sais que personne ne pourra m'enlever, j'ai ma réservation, et le jour où je meurs, j'arrive avec ma réservation. Seigneur, j'ai réservé. Est-ce que vous avez votre réservation pour le ciel, pour la mort, après la mort? Ici, il dit aussi, la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi n'est pas une fin en soi. Le but n'est pas d'avoir la foi. La foi, c'est un moyen. Et c'est un sens, comme un sixième sens. On parle du sixième sens, hein. On a cinq sens qui sont sur notre corps. Et les yeux, qu'est-ce qu'ils voient, les yeux? Qu'est-ce qu'ils captent? Oui, mais en particulier la lumière. On voit la lumière visible. Par exemple, ces chaises-là ne sont pas rouges. Eh non, elles ne sont pas rouges. Non, non. Elles sont toutes les couleurs sauf rouge. Et c'est pour ça qu'on voit, nous, le rouge. Nos yeux voient qu'elles sont rouges parce qu'elles réfléchissent le rouge. Mais leur vraie couleur, ce n'est pas le rouge. Et nos yeux ne voient que l'apparence des choses, hein? Nos oreilles, qu'est-ce qu'elles captent? Les ondes et les sons. S'il n'y a pas de lumière, s'il n'y a pas de son, on capte rien. OK ou pas? Vous me suivez jusque-là. Maintenant, prenons la foi. Qu'est-ce qu'elle capte? L'invisible. Quoi de l'invisible? Tout ce qui est dans le monde spirituel, l'esprit, tout ce qui est dans le royaume de Dieu, qui est invisible justement. La présence de Dieu, les promesses de Dieu, la réalité de la vie éternelle, du ciel, tout ça, la foi le capte. Elle est un sens qui capte les choses. Si, mais il faut que Dieu transmette pour capter. Et donc la foi est une sorte de capteur spirituel, hein, que l'on utilise ensuite. Ce n'est pas qu'il y a des gens, eux, ils ont le capteur de la foi et lui, il n'a pas eu, le pauvre, il n'a pas eu de chance, il n'a pas eu la foi. On a cette fausse idée vraiment, ah toi, tu as la foi, j'aimerais avoir ta foi. Moi, ça ne m'est jamais venu. J'ai même prié pour avoir la foi, j'ai jamais réussi à avoir la foi. Hein, on a souvent entendu ces réflexions, on l'a peut-être même pensé soi-même. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont une foi assez extraordinaire, hein, qui vraiment, Georges Muller, par exemple, c'est l'exemple de ce chrétien, il croyait l'impossible. Mais tout le monde peut avoir la foi, tout le monde peut utiliser la foi, c'est un sens, mais il faut répondre à la lumière de Dieu d'abord. Il faut, lorsqu'on reçoit la lumière spirituelle, que par la foi, on réponde à cette lumière. Quelle est la lumière spirituelle? Il y a plein de lumières par lesquels Dieu nous éclaire. Il y a d'abord la nature, la création. La création nous parle, mais pas simplement les arbres, les choses qu'on voit, mais le schéma global de la création nous dit, il y a quelqu'un d'intelligent, il y a quelqu'un de bon, il y a quelqu'un de généreux, il y a quelqu'un qui t'aime, qui a fait tout ça pour toi. Parce qu'on sent que la nature est là pour nous faire du bien. Alors bien sûr, il y a des fois où la nature est violente, hein, il y a les ouragans, il y a toutes sortes de choses climatiques, mais la nature, c'est elle qui nous donne à manger. C'est elle qui nous réjouit le cœur quand on voit toutes ces beautés c'est elle qui nous impressionne, c'est elle qui... Voilà, ça c'est, il y a quelqu'un, c'est une lumière de Dieu. Et déjà par la foi, on peut dire, oui, je crois qu'il y a un Dieu qui existe. Mais après, il y a d'autres lumières. Il va y avoir un chrétien dans votre entourage qui va vivre la foi, qui va vous parler du Seigneur, de Dieu. Vous allez peut-être lire un passage de la Bible. En français, il y a plein d'expressions bibliques. Même sans jamais lire la Bible, vous pouvez avoir des expressions de la Bible. Même dans les publicités, parfois, ils citent la Bible. Ou dans les films, ils citent la Bible. Surtout si vous regardez les films américains, c'est fou ce qu'ils peuvent avoir des allusions à la Bible dans les films américains. Peu importe, ces petites choses vont titiller votre conscience. Et là, si vous répondez par la foi, si vous captez ces choses par la foi, Dieu va vous éclairer encore plus jusqu'à votre salut, jusqu'au jour où il va vraiment vous révéler Christ est le Sauveur. Mais si vous vous fermez les yeux spirituels à ces lumières de Dieu, alors vous ne verrez rien. Vous resterez aveugle. On se dit, pourquoi il y a des gens qui sont vraiment aveugles sur les choses spirituelles? On a beau leur expliquer, leur peindre la croix, la crucifixion, l'amour de Dieu, on dirait que ça glisse comme sur les plumes d'un canard. Ils n'ont pas la foi, c'est vrai, ils n'ont pas la foi. Mais est-ce que c'est qu'ils n'ont pas reçu la foi? Non, c'est qu'ils ne l'utilisent pas pour Dieu, pour les choses spirituelles. On utilise constamment la foi. Quand vous êtes assis sur cette chaise, vous avez la foi d'une certaine façon en cette chaise. Vous croyez qu'elle va vous tenir votre poids? Vous croyez qu'elle va tenir votre poids? Sinon, on ne s'assierait pas dessus, ou alors on serait à moitié assis. Quand vous montez dans un avion, si vous êtes déjà monté dans un avion, vous mettez votre foi dans le pilote et le copilote en disant « pourvu que ça se passe bien ». Vous mettez votre foi dans les ailes qui vont supporter le vent et permettre à cet avion de flotter. Parce que quand vous voyez un avion, quand on vous dit combien ça pèse un avion, vous dites « pas possible, il ne va pas voler, lui, il va tomber comme une pierre, c'est trop lourd ». Mais vous avez foi dans cette loi que peut-être même on ne connaît pas, peu importe, mais qu'avec la loi de la portance, l'avion va flotter sur l'air. C'est déjà un début de foi, toutes ces choses. C'est un commencement de la foi. Maintenant, lorsque Dieu nous éclaire spirituellement, est-ce qu'on a cette foi aussi? Est-ce qu'on répond par la foi? La foi n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus, ce n'est pas une émotion religieuse. Oh, je ressens la foi. Non. Ce n'est pas une réflexion rationnelle non plus. Dire, bon, maintenant j'ai bien calculé, il n'y a que la foi. Voilà. Il n'y a rien d'autre dans la vie, c'est la foi. J'ai tout calculé, j'ai fait mes... Ça y est. Non, la foi, c'est un sens qu'on utilise. Seigneur, je réponds, et je réponds à Dieu. Je ne réponds pas à n'importe qui, à n'importe quoi. Bien sûr, il y a des gens qui utilisent aussi le sens spirituel pour l'occultisme, hein, pour le diable, pour les démons, pour le monde caché, hein, spirituel. Et ceux-là sont en grand, grand danger. Et tous ceux qui ont touché à ça se sont détruits. Ils ont détruit leur famille. Ils ont détruit leur âme. Parfois, ils se sont suicidés. Parfois, ils ont tué d'autres personnes. Mais ceux qui répondent à la lumière de Dieu, ça, c'est une autre histoire. Et maintenant, j'aimerais aussi m'adresser aux chrétiens. En tant que chrétien, normalement, on a la foi qui sauve, c'est-à-dire on a cru que Dieu nous sauvait, nous donnait la vie éternelle si on mettait notre foi en Jésus-Christ. On en est sûr parce que Dieu l'a promis dans l'Écriture. Et la foi doit être basée aussi sur l'Écriture, parce que les promesses de Dieu sont immuables, sont vraies, sont solides. Ce que moi je ressens, je peux me lever le matin et ne pas me sentir spécialement enfant de Dieu, ne pas me sentir spécialement sauvé. Il y a des matins où vous êtes déprimé, où vous vous levez, vous dites, pff, je ne sais même pas si Dieu est là. Jérémie, qui était quand même un grand prophète, hein, il dit, quand je prie, hein, et tu mets un mur, et c'était fermé, la prière lui était bloquée. Et il ne comprenait pas, il dit, Seigneur, mais je prie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu bloques? Pourquoi tu ne réponds pas? Mais ça, c'est du niveau de l'émotion, du sentiment, mais la foi, elle va traverser le mur. Elle va dire, Seigneur, je ne ressens rien de spécial, mais je crois que tu es là parce que tu l'as dit. Je crois que tu es là parce que tu es le Dieu vivant. Tu as dit, je serai avec vous tous les jours. Je le crois, Je le sais. Et ce n'est pas que, ce n'est pas la méthode Coué. Là encore, on confond parfois, on fait cette erreur de confondre la foi avec l'autosuggestion. L'autosuggestion, c'est que vous vous convainquez de quelque chose. Ces fauteuils sont verts. Si je le dis assez souvent, peut-être je vais finir par le croire et les voir verts. Ça, c'est l'autosuggestion. C'est une absurdité. Mais il y en a qui pensent que c'est ça la foi. Il faut se convaincre de quelque chose. La foi, elle prend ce que Dieu dit. Là où ça peut être dangereux, l'autosuggestion, c'est certains chrétiens ont dit, il y a ce verset de la Bible, et on peut regarder Marc 11, 24. Marc 11, 24. Jésus dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. C'est fort ce verset, hein? Et il dit, croyez que vous l'avez reçu. Pas que vous le recevrez, mais que vous l'avez déjà reçu. Et notre cœur humain qui est tordu peut prendre ce verset et dire, si j'arrive à me persuader que j'ai la chose, j'aurai la chose. Donc on essaie de se persuader. Seigneur, cette voiture que je convoite là depuis des semaines, je l'ai, ça y est, je l'ai. Cette maison que je veux avoir ou cet appartement, je l'ai, je l'ai. Et on se persuade, et puis on dit, ça y est, je l'ai. Je suis persuadé, donc si je suis persuadé que je l'ai, je le verrai s'accomplir. Et puis on arrive, et puis la chose ne s'accomplit pas. Et là, on est désespéré. On dit, mais alors, la foi, ça ne sert à rien. Peut-être même que Dieu n'existe pas. Et ça, c'est l'autosuggestion, très dangereux. Là, qu'est-ce qu'il veut nous dire ? C'est que quand on demande à Dieu, on doit avoir la foi, hein, on doit croire. Si je demande quelque chose à Dieu, mais je ne crois pas que Dieu va le donner, quelle doit être la conclusion pratique ? Ben, demande pas. Ne demande pas si tu penses que Dieu ne va pas te le donner. Il faut demander ce qu'on croit que Dieu va donner. Mais comment savoir ce que Dieu va donner et Dieu ne va pas donner ? Là encore, il faut se baser sur ce que Dieu veut, pas sur ce que moi je veux. Et Dieu a sa volonté et on doit prier selon la volonté. Hein. Il y a d'autres versets qui disent, hein, tout ce que vous demanderez en mon nom, tout ce que vous demanderez dans ma volonté, je vous l'accorderai. On ne doit pas demander n'importe quoi en disant, si j'y crois assez fort, je l'aurai. Non, il faut que ce soit la volonté de Dieu. Même si tu y crois à fond, tu ne l'auras pas. Mais si tu ne crois pas du tout en Dieu, si tu ne crois pas que Dieu puisse le faire, alors tu n'auras pas non plus, c'est sûr. Et souvent, nous manquons de foi. Jésus a fait ce reproche à ses disciples plusieurs fois. Il a dit, gens de peu de foi. Vous avez peu de foi. Et nous avons tellement peu de foi. On limite tellement Dieu. Parce que justement, on n'entre pas dans le spirituel. On n'entre pas dans la présence de Dieu. On reste avec nos yeux, avec notre intellect. On dit, intellectuellement, ce n'est pas possible. Logiquement, ce n'est pas possible. Mais imaginez Noé s'il avait dit ça. Il n'avait jamais plu sur la terre. Il n'y avait qu'une rosée permanente qui arrosait. Donc c'était une sorte de rosée qui flottait dans l'air. Mais il n'y avait jamais eu une pluie. Voilà. Et Dieu lui dit, je vais noyer la terre. Construis un bateau. Et Noé, par la foi, il construit son bateau. Il croit Dieu et construit son bateau. Ce n'est pas Noé qui a eu l'idée d'un bateau, c'est Dieu qui lui a révélé. Dieu qui lui a dit. Et donc, il fait son bateau et imaginez tous les habitants qui viennent le voir, qui disent, qu'est-ce que tu fais, Noé ? Je fais un bateau. Noé, il n'y a même pas la mer là où on est. Noé, il n'y a même pas un fleuve. Il n'y a même pas un lac, un étang. Tu construis un bateau au milieu de nulle part. Mais qu'est-ce que tu fais, Noé ? Tu es devenu fou. Et Noé dit, non, je crois au Seigneur. C'est illogique, c'est absurde, c'est fou. Mais la Bible dit qu'il était un prédicateur de la justice, Noé. Il a dit, Dieu va envoyer le jugement. Mais Noé, qu'est-ce que tu racontes ? On ne voit rien, regarde. Et Jésus a dit, hein, c'est au temps de Noé, les gens se mariaient leurs enfants. Il dit, mais pourquoi il y aura un jugement ? Mais qu'est-ce que tu nous racontes, Noé ? Tu es un prophète de malheur. Tu es pessimiste. Sois un peu optimiste, Noé. Mais Noé, il n'était ni pessimiste ni optimiste. Noé, il avait eu la révélation que Dieu enverrait un jugement et que pour être sauvé, il fallait rentrer dans l'arche. et il croyait en cette révélation. Et quand il a fini son bateau, le déluge est tombé et tout le monde est mort, sauf ceux qui étaient dans le bateau. Aujourd'hui, si on dit, vous savez qu'un jour il y aura le jugement dernier, vous savez qu'un jour Jésus-Christ reviendra, vous savez qu'un jour après la mort vous serez jugé et vous irez soit en enfer, soit au ciel. Oh, mais qu'est-ce que tu dis? Ça, c'est du Moyen-Âge. Mais où est-ce que tu as vu ça? On n'a jamais vu quelqu'un revenir de la mort. Et puis, tu es pessimiste. Oh, tu vois le jugement partout. Tu es vraiment. Tu peux pas être un peu dans le progrès, dans la joie. Il faut être un peu humaniste, pas tout le temps négatif. Et puis, il y a un jour où le jugement va venir sur la terre. Ceux qui ont cru en Jésus seront sauvés. Ceux qui se réveilleront dans la mort perdus. Imaginez l'horreur. Vous dites tout va bien, vous avez négligé toutes les lumières de Dieu, tous les appels de Dieu, et puis vous mourrez et vous vous réveillez, vous êtes dans la flamme, vous êtes dans la souffrance. Et c'est trop tard, il n'y a pas de sortie là. La foi n'est pas forcément logique, rationnelle. La foi, elle croit ce que Dieu dit. Mais ce que Dieu dit n'est pas totalement irrationnel non plus, n'est pas absurde. Dieu, par exemple, ne demande pas de tuer les gens. Hein, dans le Nouveau Testament, il ne dit pas « tuer les gens qui ne croient pas comme vous ». Si Dieu demandait ça, je me poserais des questions. Parce que Dieu est amour, il se contredirait lui-même. Voilà. Il y a eu des cas où Dieu a exercé la justice hein, dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, il dit bien hein, « aimez vos ennemis, bénissez même ceux qui vous persécutent ». La foi, certains ont du mal parce que c'est un pas sans voir, c'est un pas dans le vide, mais ce n'est pas un pas dans le vide, c'est un pas avec Dieu. Vous regardez ces héros de la foi, ils ont obéi à un ordre de Dieu. Ça a commencé avec un ordre de Dieu. Dieu a dit à Abraham, pars, quitte la maison de ton père. Dieu a dit à Abel, offrez-moi un sacrifice sanglant, un animal en sacrifice pour vos péchés. Abel a obéi. Et si nous voulons marcher par la foi, il faut obéir à Dieu, à ce qu'il nous dit. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Seigneur, tu l'as dit, je le crois, et j'avance. Et par la foi, notre vie chrétienne va avancer. Les chrétiens qui n'avancent pas, c'est les chrétiens qui n'utilisent pas leur foi. C'est quelqu'un qui connaît les choses, mais il ne bouge pas. Là, ces gens, ils ont bougé, tous. Hommes, femmes, ils ont bougé, ils ont agi. Et le chrétien, pour que sa vie bouge, il va falloir qu'il utilise sa foi. Seigneur, j'y vais, j'avance. Et je ne sais pas ce que Dieu demande à chacun. Hein. Chacun a un appel, chacun a quelque chose que Dieu lui demande. Mais il faut obéir par la foi. Et même si ça vous donne l'impression de monter dans la brouette de Charles Blondin, ne craignez pas, parce que c'est la brouette de Dieu. Dieu, s'il vous demande ça, il vous bénira. Lorsque le Seigneur m'a appelé à le suivre dans le ministère à plein temps, je ne voulais pas le faire. Ce n'était pas mon projet dans la vie. C'est quelque chose qui me répugnait même. Et Dieu m'a demandé ça, et il a fallu que je donne une réponse à Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, finalement, je veux t'obéir. Parce que si tu me le demandes, ça va être béni. Parce que tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu merveilleux. Pourquoi je douterais même? Si tu le demandes, ça va être merveilleux. Mais c'est ce que je craignais, que Dieu m'appelle et m'envoie quelque part ou que Dieu, je ne puisse pas avoir ma vie confortable. Et le Seigneur nous appelle. Et ça peut faire peur au début, mais n'ayez pas peur. Jésus a dit, ne crains pas, crois seulement. La foi est le contraire de la peur. La foi avance, la peur recule. La peur reste stationnaire, ne bouge pas. La foi conquiert. Et il dit, hein, ils ont conquis des royaumes, certains héros de la foi. Nous avons un royaume de Satan, le prince de ce monde, qui domine les âmes, qui les tient dans la perdition, dans l'erreur, dans le mensonge, dans l'aveuglement. C'est à nous d'aller les arracher au feu, au diable. C'est à nous de leur prêcher l'évangile. C'est à nous de conquérir le royaume de Dieu aussi, hein. Et pas par des armes charnelles, hein, mais avec la foi, avec l'évangile, avec la prière. Mais si on ne bouge pas, il ne se passe rien. Si la foi ne se met pas en marche, il ne se passe rien. Alors c'est le moment d'utiliser notre foi, de ne pas juste dire « j'attends d'avoir plus de foi ». Non, j'aurai jamais plus de foi. Ce qui compte, c'est de mettre sa foi dans la bonne personne. Et la foi, ce n'est pas en moi, ce n'est pas dans quelqu'un autour de moi, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Ce sera d'ailleurs le commencement du chapitre 12. Hein. Si vous regardez, il dit, verset 2, « Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. » Hébreux 12, 2. La foi regarde à Dieu, regarde à Jésus-Christ. Et quand elle regarde à Christ, elle ne coule pas, elle avance et elle est bénie. Et Dieu rétribue ceux qui croient en lui. Hébreux 11, 6. « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Il rémunère la foi à Dieu. On est sauvé par la foi, on est béni par la foi, on est encouragé par la foi, on porte du fruit par la foi. Et des fois, on est persécuté aussi par la foi. On meurt dans la foi. J'aimerais terminer avec cette citation de Andrew Murray, donc dans son fameux commentaire de Hébreux, « Le voile déchiré ». C'est par la foi qu'Enoch marcha avec Dieu. Mon frère, toi qui as appris, comme Abel, à t'approcher de Dieu au moyen de l'holocauste perpétuel, dans l'union avec l'agneau immolé, apprends aussi, à l'exemple d'Enoch, à marcher avec Dieu par la foi. Que la présence de Dieu soit ton unique désir, la volonté de Dieu ton unique choix, le secours de Dieu ton unique appui, la ressemblance avec Dieu ton unique espérance. Entre dans chaque journée, quelle qu'elle soit, en comptant qu'elle sera vécue avec Dieu, comme une journée du ciel sur la terre et dont la foi sera le commencement et la fin. Que tout l'enseignement de l'Épître aux Hébreux quant à la rédemption merveilleuse, parfaite et éternelle accomplie par le Fils de Dieu ait pour résultat unique de te remplir de foi en Dieu, de t'engager à t'approcher de Dieu, à marcher avec Dieu. Et toi aussi, tu sauras ce que c'est de ne pas voir la mort, d'être enlevé par la foi. Enoch ne fut plus parce que Dieu le prit. Et que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs.